Vous êtes avec SBS French.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Je suis en studio avec l'écrivain Walid Ajar Rachedi. Bonjour Walid.
Bonjour Marianne.
Bienvenue à Melbourne.
Ben merci.
Vous venez
merci
de vous beaucoup. Installer en Australie après avoir été résident de la Villa Albertine à Atlanta.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une arrivée très récente. Donc j'enchaîne un deuxième hiver, mais heureusement, il est particulièrement clément.
Qu'est-ce qui vous amène ici? Parce que quand on vous connaît un petit peu, on sait que vous êtes passé par le Portugal, le Brésil, le Mexique, la France, bien sûr. Pourquoi l'Australie?
Ah ben, c'est évidemment l'amour. Hein. Quelle est la meilleure raison dans la vie que l'amour?
Toujours.
Voilà. Donc non, c'est pour suivre ma compagne. Et c'est vrai que... En fait, on avait le désir tous les deux d'explorer une nouvelle géographie. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparent, sachez que quelques semaines avant finalement que ça se fasse pour l'Australie, on était censé partir aux États-Unis. Mais la petite histoire était bousculée par la grande et voilà, son travail était impacté. Et c'est vrai que normalement, on devait aller aux États-Unis. Donc nous voilà en Australie et heureux de l'être.
Vous dites que vous avez vécu mille vies. Et en effet, quand on se renseigne un petit peu sur vous, vous avez été informaticien, enseignant, écrivain. Vous avez fait tellement de choses.
J'ai eu la chance, c'est vrai, de parfois chaque année quasiment changer de métier, mais finalement, ça a plus été l'effet voilà, de rencontres et puis aussi d'hésitation dans mon parcours d'abord scolaire et puis professionnel. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours envie de raconter des histoires, donc ça a toujours été un peu au centre. Et finalement, tout ce que j'ai fait par ailleurs, ça a été la manière d'y arriver à un moment donné. Mais c'est vrai que dans toutes ces expériences, ça m'a permis de rencontrer des gens et donc de découvrir des histoires. Et aussi, ça permet voilà, de ne pas tomber dans le cliché de l'écrivain parisien qui vous raconte ses peines de cœur et ses peines d'écriture.
On va parler de vos livres. Ensuite, on va ouvrir la discussion sur le podcast. Ça nous intéresse particulièrement ici à la radio. Mais d'abord, parlons littérature. Vous avez écrit « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?» Et pour ce livre, vous avez été finaliste du Goncourt du premier roman. Ensuite, en 2023, « Nos destins sont liés ». Et enfin, cette année, « Albert Camus, non à la division », paru aux éditions Actes Sud. Pourquoi vous écrivez?
Je pense qu'au départ, c'est d'abord une envie de lecteur. J'étais enfant unique de mes deux parents. Après, bon, j'ai des demi-frères et sœurs. Et donc, j'habitais en très proche banlieue de Paris, à Opéreux-sur-Marne. Et c'est vrai que la bibliothèque municipale, c'était un des seuls loisirs. Et c'est vrai que lire, c'est un voyage immobile. Plus tard, en fait, j'ai cette envie d'écrire à la fois parce que j'avais l'impression de voir des mondes qui n'étaient pas racontés par ailleurs. Parce que j'ai... Quand mes parents sont séparés, j'habitais en banlieue parisienne dans une cité à Évry-Courcouronnes et c'était un moment où paradoxalement la banlieue était beaucoup à la télé et en même temps j'avais l'impression mal racontée. Donc c'était pas inconnu mais méconnu et c'est vrai qu'il y avait ce décalage entre cette image projetée et moi ce que je vivais au quotidien et aussi quand je voyais en fait à la télévision des grands débats de société, je voyais bien que les écrivains en France en tout cas ont une place très particulière. En fait on attend d'un écrivain, d'une écrivaine qui donne son analyse de la société et c'est vrai que je me souviens je sais pas, de quelqu'un comme Michel Houellebecq. Alors bon, évidemment, on peut contester les idées, mais je me souviens voilà, de le voir à la télé, on lui posait des questions très sérieuses sur ce qu'il pensait de tel ou tel sujet. Et ce genre de personne venait juste après un rapport qui lui venait de banlieue et comprenait pas du tout au sérieux. On le voyait pas dans sa qualité d'artiste et en tant que personne capable d'analyser la société. Et donc, pour moi, ce fait d'écrire, de raconter des histoires, c'est donner à la fois l'accès à des mondes inconnus pour de potentiels lecteurs et aussi une place dans le débat public. Et après, je pense qu'au fur et à mesure, en écrivant, il y a simplement aussi le plaisir de la création. Donc voilà, je pense qu'au départ, ça part d'un décalage entre l'image projetée et ce que moi je vivais, et du coup l'envie de raconter un peu ces histoires ordinaires et extraordinaires.
Tous ceux qui ont lu des livres à la bibliothèque municipale ne sont pas devenus écrivains, encore moins finalistes du Goncourt du premier roman.
C'est quelque chose d'un peu inexplicable, mais c'est vrai que je pense qu'on cultive aussi des choses pour lesquelles on sent qu'on a une forme de talent, une forme de facilité. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai toujours eu plein d'histoires qui me traversaient l'esprit. J'ai toujours été très attiré par la musicalité, même dans les chansons de pop ou de chansons françaises. Enfin, dans mes romans, c'est truffé de références musicales aussi bien, voilà, ça peut aller de Céline Dion à Jay-Z. Donc vraiment, pour moi, la question du mot et de la musicalité, des histoires. Et je pense que voilà, il y a la bibliothèque et puis aussi peut-être aussi une forme de tradition orale. Je me souviens que les étés, quand j'allais en Algérie, donc dans la famille de mes parents, il y avait beaucoup ce goût pour les histoires, de raconter des histoires. Alors sans tomber dans le cliché du conteur arabe, mais je pense que oui, il y a peut-être un petit peu ça. Mais finalement, comme disait Jean-Paul Sartre, on peut changer, mais on ne guérit pas de soi.
Vous venez de le dire, et je l'avais lu sur Internet à votre propos, j'ai lu « Vous êtes un raconteur des mondes ». Quand on prend vos trois ouvrages, on les a cités, « Qu'est-ce que j'y réfère au paradis »,« Nos destins sont liés » et « Albert Camus, non à la division ». Ce sont trois livres extrêmement différents dans leur récit, dans leur histoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour chacun de ces livres ?
En fait, le deuxième qui a été le premier, ça a été inspiré par quelque chose d'assez simple finalement, c'est que je faisais des allers-retours tous les jours entre Évry-Courcouronnes où j'habitais et... vous parlez du fait que j'ai eu des trajectoires professionnelles un peu compliquées, mais j'étais à l'époque en fac de médecine, parce que j'ai fait deux fois première année de médecine après le lycée. Et en fait, tous les jours, je faisais l'aller-retour entre Évry et Saint-Germain-des-Prés. Il y avait quelque chose de forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire que je prenais le RER à 6h30, population plutôt ouvrière, assez immigrée, etc. Et puis, au fur et à mesure du trajet, en s'avançant à Saint-Germain-des-Prés, on voit que une sorte de traversée des mondes. Et c'était quand même quelque chose de visuellement assez frappant. Et donc, c'est vrai que s'entendre parler le matin de choses assez triviales sur « Ah, j'ai pas envie encore d'aller à Courchevel », quand chez soi, voilà, on voit sa mère qui est ouvrière et qui a des problèmes financiers, voilà, de quelqu'un de cette classe sociale-là. En fait, ce décalage-là crée à la fois une forme d'indignation, mais aussi une envie de raconter, de se dire, mais, hey, mais vous voyez ça? Est-ce qu'il y a vraiment que moi qui le vois? Et du coup, c'est vrai que nos destins sont liés. Ça a été, en fait, l'envie de raconter, de faire une sorte de portrait de ce grand Paris, on va dire Paris plus sa banlieue, à travers les destins de cinq personnages dont les parcours sociaux et dont les origines ethniques étaient différentes. Et le deuxième manuscrit, qui a finalement été le premier publié, c'était quasiment comme une sorte de spin-off, puisque finalement c'était un personnage qui était un personnage secondaire du premier. Et au début, en fait, je me suis dit, je vais raconter l'histoire de ce personnage qui se part dans une sorte de road trip un peu existentiel, à la fois dans une quête identitaire, mais aussi d'essayer de comprendre le monde, ce monde d'après le 11 septembre. Et ce qui s'est passé, c'est que la collision qu'il y a eu, ça a été une collision à la fois de l'histoire, c'est-à-dire parce qu'on a eu les attentats de 2015 en France, et puis aussi d'ordre personnel, parce que j'ai connu un deuil à ce moment-là. Et du coup, finalement, toute la deuxième partie du roman est devenue un roman autour de la question de la perte. Et donc, qu'est-ce que j'irais faire au paradis ? Donc, c'est qu'est-ce que j'irais faire au paradis si tu n'y es pas ? Finalement, c'est une sorte de nostalgie, d'une sorte de futur avorté.
Vous avez ressenti quoi d'être finaliste d'un concours pour ce livre ? Ça vous a confirmé qu'enfin, vous aviez peut-être trouvé votre voie dans toutes celles que vous aviez cherchées ?
En fait, ce qui est très difficile, c'est que quand on écrit, contrairement à d'autres domaines, par exemple, voilà, j'ai fait une école de commerce, on a un diplôme, on fait des stages, on trouve un emploi. Et en fait, on est une sorte de confirmation qui est graduelle sur ses capacités à faire quelque chose. Dans l'écriture, en fait, on reste des années, voire dans mon cas, 15 ans à travailler dans son coin. Et quand on parle de son envie d'écrire, surtout dans un pays comme la France, où écrire, ça veut dire tout de suite rentrer dans la même catégorie, dans le même cours que Albert Camus, Romain Gary, Simone de Beauvoir. Enfin, ce que je veux dire, c'est quand même, c'est comme quand on est brésilien qu'on veut jouer au foot, quoi. Je veux dire tout de suite, il y a du niveau. Donc, quand je parlais de cette envie d'écrire, et puis venant d'où je viens, de par mon parcours, social et mes origines et tout, donc c'est vrai que les gens étaient un peu circonspects. Ils disaient, le type, il a travaillé en banque, il raconte qu'il veut écrire des romans. Et du coup, c'est vrai que c'est ce fait d'avoir été sur des listes de prix et évidemment le concours du premier roman, c'est que tout d'un coup, on se dit, en fait, j'étais pas fou. En fait, j'avais raison d'y croire et je m'étais pas trompé et ce que je racontais valait quelque chose.
On vient de parler de la littérature, mais on va parler podcast à présent puisque vous avez cofondé avec votre frère Friction. Et vous explorez notamment des questions d'identité, mais aussi des questions de société, de globalisation, mondialisation. C'est important pour vous le support, que ce soit le papier, l'audio, pour faire passer des messages ?
Déjà, je pense que ce qui est important de se dire, c'est quel est le but qu'on poursuit ? Le but qu'on poursuit quand on écrit des histoires, c'est d'avoir un impact, c'est de raconter des mondes, c'est de créer une sorte de passerelle vers l'intime d'autres personnes. Évidemment, moi je suis lecteur, je crois au pouvoir de la littérature pour raconter ces mondes-là, mais aussi j'adore le cinéma. J'ai passé énormément de temps devant la télévision. Donc, je pense que le fait de raconter des histoires, ça passe par plein de médiums. Ce que je trouve hyper fort avec le podcast, c'est sa capacité à raconter du long. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo sur Internet avec TikTok et le reste, alors évidemment, je consomme ces contenus comme tout le monde, mais on a affaire à quelque chose de plus en plus resserré. Et la difficulté, c'est que quand on a quelque chose qui est très court, ça empêche aussi une forme de profondeur. Or, avec le podcast, on a la capacité à avoir du temps long parce que en fait c'est un rapport assez intime, hein, c'est l'oreille, donc c'est, on rentre vraiment dans les, dans l'oreille de l'auditeur ou de l'auditrice. Et c'est aussi cette capacité à avoir quelque chose de produit, mais qui n'est pas si cher que ça. Donc il y a aussi la question de la contrainte économique. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très démocratique dans le podcast. Pour moi, finalement, ce qu'on vit avec le podcast en ce moment, même si l'écosystème se resserre, c'est un peu le moment YouTube de 2004, quoi.
Trois ouvrages et friction, j'ai bien du mal à croire que ça pourrait vous suffire. Est-ce que vous avez déjà des prochains projets ?
En tout cas, par rapport à mes livres, bon, il y a un roman sur lequel je travaille depuis un certain moment. Moi, je mets beaucoup de temps à écrire mes romans. Hein. Ça se passe vraiment sur plusieurs années. J'ai un livre qui est justement une continuité de mon séjour à Atlanta, donc sur la question du rêve américain. Alors, il s'est trouvé, c'était un hasard, mais enfin, est-ce qu'il y a des hasards dans la vie, c'est notre question. Mais en tout cas, c'était un hasard. Mais donc moi, j'étais là-bas pendant les 100 premiers jours du deuxième mandat de second mandat. Enfin, j'espère que c'est pas le deuxième. J'étais là-bas pendant les 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump.
De l'importance entre second et deuxième dans cette phrase.
Ben oui, non, mais aujourd'hui, on ne change plus de rien, donc. Donc voilà, ce mandat de Donald Trump, et donc c'était pendant les 100 premiers jours, et donc dans une ville comme Atlanta, c'était intéressant parce que c'est une ville qui est démocrate dans un État qui est très conservateur. Et donc ce contraste-là, c'est une super matière, et j'ai pu faire une dizaine d'entretiens là-bas avec des gens de plein d'horizons différents. Et finalement, j'interroge aussi une représentation qui est née dans l'enfance, parce qu'on parlait tout à l'heure de la bibliothèque, mais l'autre grande inspiration, c'était l'écran de télévision. Et dans l'écran de télévision, qu'est-ce qu'il y avait dans la fin des années 80 ? Ben, il y avait les mangas et surtout les séries télé et les films américains. Avec voilà, l'américain qui sauve le monde, l'américain qui est toujours guidé par une sorte de boussole de la moralité. Et aujourd'hui, ben, on est un peu loin de cette image-là. Quand on regarde l'actualité, c'est vrai que c'est cette dissonance que j'ai envie d'interroger dans ce livre.
Donc ça, c'est un projet littérature. Est-ce que vous avez des projets podcast ?
Alors effectivement, dans le cadre de Friction, j'aimerais beaucoup l'année prochaine explorer ce qui se passe vu depuis l'Australie, donc à la fois effectivement en podcast mais aussi en texte, parce qu'on a un média qui est à la fois audio et écrit. Et donc c'est vrai que là je suis dans une phase d'observation, essayer de comprendre un peu ce qui se passe ici et vu d'ici, pour à la fois le raconter pour un public, j'espère, basé en Australie, mais aussi basé ailleurs, pour raconter un peu vu de ma petite fenêtre et de celle des gens que j'aurais rencontrés ici, ce qui se passe dans cette région du monde, une région depuis laquelle en fait on raconte finalement assez peu d'histoires. Et un exemple tout bête, c'est qu'une ville comme Melbourne, par exemple, c'est une ville qui est incroyablement multiculturelle. Là, on est dans le CBD et c'est vrai que quand on se balade dans la rue, ben, c'est vrai que c'est pas l'idée exactement quand c'est de l'Australie. Et moi, je suis tous les jours quasiment à Public State Library. Il y a des grandes expositions sur les questions d'identité et autres. Et en fait, c'est des choses qu'on ne raconte pas du tout. C'est vrai que quand on pense à l'Australie, on pense au surf, on pense au kangourou, on pense à Crocodile Dundee. Enfin bon, je ne vais pas citer tous les clichés. Et c'est vrai que je me dis, en fait, il y a tellement d'histoires à raconter depuis ici. Et c'est aussi un des challenges, en tout cas, auxquels j'espère m'attaquer.
Des histoires australiennes et des histoires du monde entier, puisque comme vous l'avez dit, à Melbourne, le monde entier se retrouve.
Exactement, et donc c'est effectivement raconter le monde entier à travers ce prisme australien. Et je trouve que c'est fascinant, en tout cas ce rapport en tout cas à l'identité, c'est toujours quelque chose qui moi m'intrigue. Et c'est vrai que quand je fais le comparatif entre, on va dire, la France, les États-Unis, le Brésil, ici, en fait, ce sont quatre sociétés qui sont multiculturelles ou multiethniques, on appelle ça comme on veut, qui en fait ont leur propre appréciation derrière de ce que ça veut dire faire société. Et du coup, ça peut être une des questions parmi d'autres, effectivement, qui peut être vraiment passionnante à explorer ici.
Walid Ajar Rachedi, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marianne.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.